va remonter le temps, évidemment, parce que tu alors, on va remonter le temps, disais-je, parce qu'il est né en 24, et pour cela, on a eu la chance d'avoir un grand reporter qui a été écrit à Berlin, et c'est Marc Ravetz qui va remonter le temps avec nous. Voilà, merci Marc, et bien, voilà. C'est bien que Marc est évidemment le grand reporter, c'est pour ça qu'il est là, mais c'est un compagnon d'utopie d'Armand Gatti, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle d'une manière très originale Armand Gatti, voilà, et que vous pouvez trouver en vente ici chez un éditeur qui est très courageux. Car j'ai tout dit là.
Armand Gatti, c'est l'auteur des poèmes qui sont dans le livre.
Et l'éditeur s'appelle comment, Marc ?
Jean-Michel Place.
Voilà, et le reporter, c'est toi qui as écrit quand même ce livre.
Oui, et c'est un livre de journaliste.
Ah oui.
Non, non, mais j'y tiens.
C'est bien, mais tu fais l'acteur.
Mais justement, d'ailleurs, je suis devenu journaliste après avoir fait l'acteur.
Oui, il y a une photo dehors.
Il y a une photo dans l'eau, pour ça.
Marc Ravetz, heureusement, a quitté le théâtre, on a plus un très vite. Voilà,
alors, heureusement ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, journaliste, ça j'en suis sûr. Alors précisément, vous voyez, j'ai entre les mains un de mes outils de travail les plus précieux, c'est pour prendre des notes, pour pouvoir écrire vite. Et donc voilà, je ne c'est pas un vrai reportage là, parce qu'il fallait écrire vite. Mais je voulais quand même, puisque cette histoire commence, en fait elle ne commence pas là, mais l'espace et le temps sont des choses avec lesquelles Gatti nous a appris à jongler de manière un peu différente, mais en tout cas, cette histoire-là, nous on a besoin de repères un peu plus sûrs, et donc c'est en effet cette histoire qui commence le 26 janvier 1924. Alors, le 26 janvier, c'est pas toujours une date extraordinaire, c'est la date du disparu Gérard de Nerval, c'est la date aussi où Barcelone en 1939 est tombée entre les mains des franquistes, mais Madrid tenait toujours, pas très longtemps. Et puis, en 1924, il n'y a pas non plus des bonnes nouvelles, tiens, on va commencer par l'Italie. C'est le moment où Mussolini et les fascistes triomphent aux élections italiennes dans une atmosphère de grande violence, avec 65% de suffrages qui viennent du centre et qui viennent du sud. Le député socialiste Matteotti est assassiné. L'opposition parlementaire se retire sur l'Aventin, c'est son mot, et la voix sera libre pour le duché. Mais il y a un nouveau député qui fait son entrée au Parlement italien et qui s'appelle Antonio Gramsci. Et Antonio Gramsci va devenir la voix et la plume de la résistance au fascisme et crée l'Unita. Son premier fils, Tellio, né au mois d'août, vous êtes frère presque de naissance. L'autre fraternité, je n'en ai pas besoin d'en parler. Deux ans plus tard, Gramsci sera arrêté, condamné à 20 ans et 4 mois de prison. Alors, voilà pour l'Italie. En URSS, Lénine vient de mourir, Staline prend le pouvoir. Il en va encore avec Zinoviev et Kamenev, pas plus très longtemps. Trotsky, qui était le favori pour prendre la succession, eh bien, il n'a plus que quelques mois à passer à flirter avec le pouvoir, et très vite il s'en ira. En Allemagne, là, les nouvelles sont un peu pires. C'est à Munich, en effet, s'ouvre le procès de Hitler, qui est déjà le Führer du NSDAP, le Parti ouvrier national socialiste, suite à ce qu'on appelle le putsch manqué de la Russie. Il est condamné à 50 forteresses, il n'y passera que 9 mois, et le temps de diriger Mein Kampf. Quelques nouvelles des États-Unis. On est toujours en 1924. Ford annonce la production de cette 10 millionième automobile et baisse le prix de ses modèles. Mais c'est pas tellement ça qui va compter. Puis on sait quelque chose. Et on sait pourquoi. Le Congrès américain, sur la durcit encore ses lois d'immigration et fixe des quotas. Et du coup, la France ne peut pas être en reste, fixe aussi ses quotas d'immigrés qui dureront d'ailleurs jusqu'aux années 70. Et ben, en France, où le pouvoir du quartier des gauches va s'installer, c'est pas non plus d'excellentes nouvelles. Abdelkrim qui se révolte devant le rite marocain connaîtra le sort peu enviable qu'on sait, mais ne continuera pas moins à résister. En Indochine, eh ben, toutes les libertés fondamentales, qui d'ailleurs étaient largement sous le verrou, ben, elles le continuent. Donc voilà, ça c'est pour les grandes nouvelles, et puis on va passer aux choses plus sérieuses. En littérature, bon, on peut noter quand même qu'un certain Charles de Gaulle, qui vient de sortir de l'école de Guerre, signe sa première œuvre écrite, ça s'appelle « La discorde chez l'ennemi ». Au même moment, et bon, André Gide publie « Si le grain ne meurt ». Alors pourquoi je le mentionne André Gide? Donc, bon, bien sûr, c'est un grand écrivain, mais c'est aussi parce que peu de temps après, il écrira sur un jeune poète totalement inconnu, un essai, et qu'un poète qui ne sait pas, peut-être pas encore à quel point il va devenir la lire et découvrir, c'est un essai sur Henri Michaud. Et c'est comme ça qu'Henri Michaud va entrer dans la maison, mais on va en reparler. Et puis, quand même, 1924, c'est l'année où, après Rimbaud et l'autre Clermont, la poésie reprend les armes, André Breton publie le manifeste du surréalisme, donc grande année. Et puis, il y a une autre révolution qui passe d'ailleurs à peu près inaperçue, mais on la retrouve quand même quand on regarde les histoires. C'est le moment où Louis de Broglie soutient sa thèse sur le caractère ondulatoire des particules et publie ses premières recherches sur la théorie des quanta. On sait pourquoi ceci est particulièrement précieux dans la suite de ton œuvre. Mais si c'est sur l'année 1924, c'est quand même pas seulement... Ça, tout ça, on peut le trouver dans les chroniques et dans les livres, celle-là que je vous ai trouvé, mais il y a aussi celles et ceux qui n'ont pas encore leur nom dans la chronique et qui vont jouer un rôle. Alors, je les cite un peu dans l'ordre où ils sont apparus comme ça. Jean Cavaillès. Jean Cavaillès qui va jouer le rôle que l'on sait. Bah, à ce moment-là, c'est un très brillant jeune normalien. Il est entré premier de sa promotion en 1923 et il prépare une licence de mathématiques en même temps que son agrégation de philosophie. Il est en deuxième année, donc en 24. Il est quasi général, mais ça veut dire qu'il est l'intermédiaire entre l'administration et les élèves. Et alors parmi ces élèves, ben voilà, c'est tout de même une génération assez particulière. On y compte Raymond Aron, Georges Canguilhem, Paul Nizan, Jean-Paul Sartre. Et ensemble, ils se livrent à quelques canulars mémorables. Ça, c'est Raymond Aron qui le raconte. Mais qui dit aussi, nous sentions tous que l'être vrai de cet homme, que sa supériorité isolait, était bien au-delà de ses activités banales. Il s'agit de Jean Cavaillès. Et puis, encore des nouvelles d'un ami, en tout cas de quelqu'un que tu as beaucoup fréquenté, même si tu n'as pas connu. Walter Benjamin, à ce moment-là, séjourne à Capri, avec plusieurs amis, dont Ernst Bloch, qui lui fait connaître l'histoire et conscience de classe de Lukács. Mais c'est aussi la rencontre capitale avec Asia Alassis. Alors, je ne sais pas si tout le monde a lu son journal de Moscou et Sens Unique, à qui ce livre est dédié, parce qu'il dit « Cette rue s'appelle rue Asia Alassis, du nom de celle qui en fut l'ingénieur et la perça dans l'auteur. » Et qu'il présentait comme une lettonne bolcheviste de Riga. Riga qui m'est aussi très cher pour d'autres raisons. Mais encore des nouvelles des amis. En 1924, Francesco Ascaso et Buenaventura Durruti sont de passage à Paris. C'est improbable, mais c'est ainsi. Ils sont à Paris dans la clandestinité, se font chasser de partout à l'époque. Ils sont venus pour organiser la solidarité avec justement les Solidarios de Barcelone et ils vont créer l'édition anarchiste internationale. Et pour survivre, Ascaso trouve un emploi de manœuvre dans une usine de tuyaux de plomb et Durruti devient mécanicien dans les ateliers Renault. Alors, en Espagne, ça ne va pas très fort, ça va aller plus mal plus tard. La dictature de Primo de Rivera s'installe et elle trouve une oreille favorable du côté français pour justement mener la chasse aux anarchistes. Ascaso et Durruti quittent la France et s'embarquent pour les Antilles avec l'Argentine pour but. On les retrouve à Cuba avec une nouvelle signature, Los Errantes, les errants. Comme quoi. L'histoire singulière. Et puis cette année-là, une autre légende commence. Et puis Henri Michaud a quitté lui aussi Bruxelles pour Paris. On ne sait pas très bien d'ailleurs comment. On sait qu'il écrit. En réalité, personne ne le sait. Et lui-même, on n'est pas sûr qu'il le sache. Mais il écrit. Nestor Macnaud, tiens, est également en chemin pour Paris. Nestor Macnaud, qui donc a survécu à la défaite vis-à-vis de l'armée rouge en Ukraine en 1921. L'armée rouge qui a occupé Boulier-Polier, donc le centre de sa commune ukrainienne, l'utopie liberté a vaincu, comme en mars de la même année à Kronstadt, après l'écrasement de la mutinerie, et Macnaud est sur les routes de l'exil en 1924, alors il est ou en Roumanie ou en Pologne, en tout cas il est en prison, et il va d'une prison à l'autre, dans peu de temps il sera à Paris. Alors, je ne voulais pas quand même finir sur une note trop triste, en 1924, ah si quand même, il faut signaler deux disparitions de cette année-là, deux disparitions qui sont des êtres qui vont beaucoup compter d'une manière ou d'une autre dans ton œuvre, c'est Franz Kafka, qui est mort en 1924, et Giacomo Puccini, dont la Tosca va être peut-être le chant emblématique de Sacco e Vanzetti. Et puis, donc, pour ne pas finir justement sur une autre autrice, je voudrais rappeler que le 26 janvier, c'est une célébration, et alors, ce jour, on n'invente rien, et elle se passe en ce moment exactement à la même heure à Monaco. Il y a eu une messe, il y a eu une barque enflammée qu'on a jetée sur les flots, et on a tiré un peu d'artifice. Et c'est donc le début de la célébration qui va durer 2 jours de la Sainte Dévote. Donc la Sainte Protectrice de Monaco, je ne vous en raconte pas l'histoire, ce serait trop long. Et ça n'a pas rapport grec, quoique, parce que cette célébration sous cette forme, messe, barque enflammée et feu d'artifice, elle a été créée par un comité national des fêtes qui, l'histoire est ainsi faite, est née en 1924 à Monaco. Et ce jour-là, pour la première fois, on tirait, on faisait un peu d'artifice, il y avait une barque enflammée sur la fête, et ce jour-là, une jeune femme, Letizia Luzzona, venait de franchir la frontière pour rencontrer celui qui était rescapé, très improbable, d'une tentative d'assassinat à Chicago. Et Letizia et Auguste allait enfin se retrouver. Et quand le canon s'est mis à tirer, il s'est dit, voilà, ça y est, voilà Auguste qui recommence. Et tu es né.
Il a eu un prix à Berlin.
Ah, j'ai tout à fait un prix à Berlin.
30 ans, oui.
30 ans plus tard, exactement.
Et toi, tu l'auras en 80.
Oui, oui, parce que c'est pas. Alors, tout ça, 80, oui, parce que 80, oui, c'est
une liaison radio.
Oui.
Tu peux peut-être. Oui.
Non, c'est vrai que.
Le prix à Berlin.
Alors, non, tout de même, parmi les choses les plus précieuses que vous ne trouverez pas dans les bibliothèques, merci Jean-Jacques de l'avoir confié, il y a ce livre. Envoyé spécial dans la cage au four. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous le nier. Mais c'est là qu'on voit, vous savez, le prix Albert Long, c'est un peu comme le journaliste de cette époque, récompensait quand même plutôt des journalistes dans la norme, de bons journalistes, parfois même d'excellents. C'est la première fois, d'ailleurs, contre le gré du journal qu'il employait, mais qui était bon joueur, hein, disons-le, qui était parisien, le journaliste qui parle en commun, donc, a décidé, enfin, le jury Albert Long a eu une extrême audace, et quand même, il faut dire, le génie, de couronner donc une série d'articles sur le cirque, les animaux, les dompteurs, qui s'appelait Envoyé spécial dans la cage aux fous. Alors, je vais vous revenir sur deux choses. L'épigraphe d'abord. À une époque, l'épigraphie où j'avais des rapports assidus avec les ménageries et leurs pensionnaires, les éditions du Seuil, émues par la forte odeur de bête que je portais sur moi, me demandèrent d'écrire un livre sur les fauves. J'acceptais de santé. Entre-temps, un jury de grand portée a eu la bonté de m'attribuer le prix Albert Long pour un reportage paru dans le Parisien Libéré, Envoyé spécial dans la cage aux fauves, c'est ici. Sans beaucoup hésiter, j'en ai fait cet ouvrage. Il s'agit bien entendu d'un livre tranquille qui ne fera hurler personne. C'est mon seul regret. Et puis, la fin du livre, allez, deux mots encore. Depuis 2000 millénaires, l'homme a vaincu un jeu impitoyable sur la table des choses durables. Au bout du trajet qui va de sa lointaine naissance à ce qu'il est aujourd'hui, son visage est devenu le signe de sa victoire. Il a modelé ce qu'il entourait à sa ressemblance. Et puis plutôt, dont je vous passe un paragraphe, puis j'ajoute, la panthère qui bondit vers on ne sait quelle destinée obscure dans l'espace étroit de la cage, le loup blanc tourbillonnant dans le cerceau de feu comme s'il devait retrouver de l'autre côté ses neiges familières, l'ours acrobate, le lion qui tente de reconstituer avec des rugissements sa royauté prisonnière, peuvent se dresser dans l'impressionnant salué du cirque. Le spectacle n'est pas fini. En dépit de nous, les fauves paraissent conserver le noyau infracassable de nuit qui consacre sur bien des points l'inanité de nos efforts et de nos exactions. Nous avons fait d'eux des artistes. C'est la seule caste sociale où nous ayons jamais pu les placer. Telle est notre défaite.
Carole, ça marche pour moi. Alors, on va maintenant plonger dans le théâtre, puisque tu es rentré en théâtre en 1959 avec le crapaud de buffle, ça va, mesdames, messieurs les intervenants. Voilà, merci, alors on y va.
Là, à propos du crapaud de buffle, vous avez fait pour la première fois, je crois, dans votre carrière, la critique de la critique. Vous n'envisagez pas vous-même de pouvoir vous tromper ?
Oh, si, bien sûr. Et c'est une des raisons qui me fait dire que peut-être un jour je serai un bon critique dramatique, parce que avant d'entrer dans une salle, je me dirais que tu es sujet à l'erreur.
Ce que vous avez reproché, il faut le dire, à la critique, ce n'est pas sa sévérité, mais sa cruauté. Dans une expérience comme celle que vous poursuivez au théâtre Récamier, qui est de révéler des nouveaux talents d'auteur dramatique, qu'attendez-vous en somme de la critique ?
Justement, une seule chose, au moins, une seule chose. C'est de ne pas être cruel. C'est assez facile d'être cruel avec une plume par rapport à une œuvre qui vient de naître.
Villard, c'est celui que j'appelle mon premier père. J'en ai eu trois. Villard, donc, Hervé Piscator et Mao Tse-Tung. Ce sont mes trois pères, ceux que je reconnais en tant que père. Et il est évident que le premier père a changé entièrement toute ma vie. Et un matin, alors qu'on ne s'était jamais vu, Il m'a téléphoné, il m'a dit, voilà, rendez-vous à 7, pour l'instant je suis à Avignon, mais dans un mois je suis à 7. 7, c'était l'endroit où il prenait ses vacances, il avait une maison. Et donc, rendez-vous est pris, et là il m'a dit, voilà, je pense qu'après avoir lu les manuscrits que m'a donné Agnès Varda, j'ai tout lu, et donc je pense que je peux être ton metteur en scène, et toi, tu seras mon auteur. Voilà. Et à partir de ces quelques mots, a commencé une aventure pour moi exaltante. Elle se continue encore aujourd'hui et avec lui.
Voilà, alors vous avez entendu au début l'interview de Paul Hugnot, c'était donc pour Paris Inter, et avec la voix de l'art. Et après, Gatine, vous l'avez reconnu. Et maintenant, on va donner la parole à Françoise Thierry, qui s'est appelée à jour Rémi de Rémi, c'est ça, Françoise?
Oui.
Voilà, c'est ça, c'est dans une autre époque. Hein.
C'est toujours maintenant. Bonsoir Dante.
Plus fort.
Bonsoir Dante. J'ai le trac. Je te chante cette chanson, Les cinq murs du Pentagone. C'est un extrait de Jean Cavalès numéro 5. C'est sur Jean Cavalès. Je la chante pour toi. Qui a brisé le silence du pape, qui a suivi la guerre. Je la chante pour son père.
C'est intime. Et leur témoignage repris tous les jours, comme au premier moment de lumière, la classe ouvrière y dit son assassinat, 206 fois répété. Un homme est mort, les noms sur les murs des fusillés sont tous de la mine. Et sur place, ils sont tous mineurs, qui répondent comme autant des grandes catastrophes. Toutes les localités minières du Nord, Charbonnage, Houillères, Fosse, Galerie, Avrieux, prennent place sur les épitaphes en ciment. Marchands, maîtres, curés, conseils municipaux et soldats de l'armée rouge, prisonniers ensuite, il y a le coup sur la ville des morts. Face au poteau d'exécution, il n'y a plus leur silence. Les noms et leurs détails. Les quatre coins de l'univers, chanter en feuilles et en branches. Accepter, et suivant les saisons, une croix en toit, une rose orange passion, et une guerre, de quel désespoir. Inutile aujourd'hui le langage de ton sinon que les forêts aux grammaires végétales, les missiles, leurs noms sur les murs, les prolonges
sur un des murs du Pentagone. 12 autres noms. Chaque jour étonné de se retrouver là. Chaque jour au premier moment de lumière. Ils sont sur les murs de marbre blanc. Signe vert qui vaut. Sous l'identité multiple de leur combat. Et la fable de leur raison. Tu étais l'un des deux, Jean Cavaillès, pourquoi tout seul, et pas pour longtemps, l'armée des ombres face à son nom, de l'épistémologue devant les fusils, étincelant de tous les alias de la clandestinité, la salle. A fait l'inconnu numéro 5. Mais dans le cimetière d'Arras, persistant à te dire, dans tous les langages de la création,
j'ai assisté à ma première pièce de théâtre. Mes origines ne me prédisposaient pas à avoir des rapports particuliers avec le théâtre. Je n'y étais jamais entré. Et ma situation sociale voulait que je sois plutôt un enfant de la rue, ce que j'ai été, et que peut-être que j'ai assumé, enfin, le plus loin possible. Alors, donc, dans le camp, je me suis trouvé devant un groupe qui est porté d'une baraque à l'autre, une pièce qui était faite de trois mots. Ich bin, ich war, ich werde sein. C'est-à-dire, je suis, j'étais, je serai. Ça a été, en quelque sorte, pour moi, la révélation du théâtre. Hein, il était là. Hein, en plein sur l'événement, il était là, en plein sur le combat des hommes, hein, pour, hein, cette dimension qui les faisait plus grand que l'homme. Et c'est toujours ainsi que j'ai compris le théâtre.
Il y a eu la résistance et ceux qui sont morts pour elle, comme l'inconnu numéro 5, Jean Cavaillès, chanté par Françoise Thirion, accompagné par Stéphane Tuc à l'accordéon sur la musique de Michel Balmer. Il y a eu le camp et cette révélation du théâtre. Et depuis, cette parole errante, théâtrale, poétique. Cadeau de Gérard de Sartre pour Arnaud Gatti. Il lit les mains, un extrait de La parole errante.
La parole errante. Mains, non plus flues ou coulées d'une émotion, mais risques nécessaires à la poésie. Mains qui ont planté sur les terres dévastées d'Irlande des mots qui autrefois étaient des arbres. Mains d'artificiers, selon Henri Michaud. Mais après l'épanouissement, que reste-t-il? Un dessin brûlé sur la rétine. Mains au bout de la pelle triangulaire s'enfonçant dans la partie mortelle du monde concave. Mains bâtisseuses de logopoles et remontant les horloges à l'infini sur le trajet des pages. Mains évidence d'un centre absent mais toujours dite en texte multicolore. Mains qui ont porté en terre la dépouille froide des amis, non pour les ensevelir, mais pour qu'ils germent, beaux, terribles, incommensurables. Mains des îles grecques, retenues dans les ceintures du soir et grimpant, fleurs insolites, vers les étoiles, la nuit venue. Mains inextricablement en guerre, étirant toujours en l'air parce que la mort de l'autre leur a toujours été incompréhensible. Mains d'Antés Bretons, venus des monarchies hiéroglyphiques, se lisant dans l'enfoncement, le relief, la ciselure, l'écume rejaillissante d'un océan toujours en mouvement. main de la continuelle offrande. En mal de tout, les mouvements de la mer, la course du chien abandonné, la solitude du loup et le rossignol la nuit, chaque fois rapatrié en elle. Main de la nuit, de l'art qui continue l'émergence de l'effondrement universel. Et le fond du manque de support, de la dislocation, du corps remonté à la surface après la noyade, leur raison de dire. Main cherchant à tâtons à travers le monde les battements de cœur de la poitrine de Sylvia. La main dans la main de Jean Villard, un moment de la Méditerranée dont il était sur ses rivages, tous les arbres, lors d'une partie fictive de bras cassés, uniquement pour les photographes. Main inventant la fraternité avec des mains de peintres futuristes, cubistes, intersectionnistes, qui ne cessent de frémir, d'absorber, de rayonner la beauté des spectres, des transfigurations, des succès d'années. Main de la croyance zen, déchirant comme un moine les textes sacrés, mais les recopiant la nuit avec des encres cassées. Main errante des aventures calligraphiques de Emao Tse-Tung, les commentant. Pour la calligraphie, il faut qu'une troisième main jaillisse d'elle comme le bond d'un tigre. Main d'en dessous le volcan ayant tenu le quetzal fabuleux venu des champs de Miguel Angel Asturias. La main dans la main de Cipriano Mera, le nom général qui avait gagné la bataille de Guadalajara contre les croisés de la Vierge de Saragosse. Main ayant porté monotes, cabriolets, poussettes, bracelets, manchettes, à chaque époque son élégance. La main dans la main de Michel, la fille du rabbin, et le visage souriant de la guerrière guatémaltèque suicidée juste avant son arrestation. Main tendue en direction des mains du médecin Che Guevara, un jour d'exécution massive, à Cuila, au Guatemala. Elles le sont presque toutes. Par la suite, ces deux mains tranchées et enterrées dans le plus grand secret, pour éviter la contagion de la subversion. Mains devenues cerisiers lorsque se sont greffées sur celles de Tomiko, sur la route de la bombe atomique. Depuis, entre Nagasaki et Hiroshima, les buissons ardents, les buissons sauvages fleurissent. Bleus. Main léguée par Bernard Sabie dans l'épaisseur et la concrétude du temps. Non pas ses lignes, pas ses eaux futures, mais les mains modelant une pâte invisible et permettant résurgence et continuités inattendues. Mains entre flammes et ombres, déroulant leurs extases incertaines. Main sur la peau d'Ulrike. Il fallait, pendant la grève de la faim, séparer avec du papier carbone de ses habits devenus douloureux. Mais main cherchant continuellement la réponse à des mains qui fournissaient la radicalité nécessaire aux itinéraires qui fuyaient les institutions pourvoyeuses de sens et de savoir. Mains qui se sont rêvées la nuit, être celle de Léonard de Vinci dessinant le mont Checcheri, d'où les hommes devaient s'envoler vers le soleil. Mains de l'amour en irlandais par leur obstination à être serpent de plume, loup-garou, sirène et même centaure lorsqu'elle croyait devoir suivre le destin des constellations. Au bout, Ingrid, l'oiseau blanc de la bohème berlinoise, pendu dans la prison Munich. Mains qui ont parlé aux chiens, aux chats, aux oiseaux et même, à un certain moment, à la lionne et à la panthère tachetée et qui se perdent dans le dialogue avec les espèces disparues. Ou qu'on va faire disparaître. Main comme un théâtre vide devant Mei Longfang. Peut-être qu'y voyait-il l'histoire qu'il venait de raconter, la neige en été. Main réchauffée au contact des mains de Paddy Doherty. 4000 ans d'histoire barde à elle seule. Énergie dans mouvement ininterrompu, onde, nœud, en continuelle transformation, réorganisation, composition. Le miracle pour toute l'Irlande que Saint-Patrick n'a jamais su faire. Main encore pour raconter à Henri Michaud, accoudé au piano pas encore vendu de la rue Séguier. Seules les mains écoutent, on le voit à la lumière. Le reste d'Henri Michaud ne réagissait que lorsque la musique l'écoutait. La main repliée, poing levé pour saluer toute la nuit dans Turin, l'endroit où Nietzsche est devenu fou. La main repliée, poing levé pour dire non et en même temps oui au siècle.
J'ai deux messages personnels. Le premier, c'est pour Georgette. Éteins ton portable. Et puis, même si on ne s'appelle pas Georgette, on éteint son portable. Merci. Et le deuxième, pour que les Norvèges en bloc, je t'embrasse, c'est surtout Roger Blanche.
Et au commencement de tout, il y a le père Auguste G.
Là, les éboueurs qui font naître le jour vient de la pièce La vie imaginaire de l'éboueur Auguste G, qui était l'adieu de mon père, Auguste Gatti, un balayeur. Il partait très tôt le matin, partait dans la nuit finissante, et il ne réapparaissait dans la ville que derrière la benne municipale qu'il remplissait avec de lourdes poubelles en fer qui étaient arrachées au sol et portées à bout de bras et jetées ensuite dans la benne. Et on avait l'impression que c'était la benne et ceux qui l'entouraient qui faisaient naître le jour. Et que si, par malheur, la benne, il serait arrivé que la benne ne vienne pas un jour, le jour ne se serait pas levé.
Jacques Rosner et Isabelle Sadoignan lisent chacun un extrait de la vie imaginaire des joueurs Auguste G, dont l'un fut le metteur en scène et l'autre l'interprète en 1962.
C'est au 18 bis boulevard de la Bastille que Gatti me raconta l'histoire d'Auguste Gatti. Il me parla de Monaco, du bidonville de Monaco, et de ces éboueurs qui font naître le jour. Et quand je lus Auguste G, je ne pus m'empêcher de me souvenir constamment de cette histoire qu'il m'avait racontée. Et grâce à une équipe de comédiens magnifiques, parmi lesquels il y avait notamment Isabelle Sadoyan, Julia Dancourt, Pierre Méran, André Bénichou, Jean Lescaut et beaucoup d'autres. Et il y eut surtout, toute l'aventure a été rendue possible grâce à un acteur extraordinaire qui s'appelait Jean Bouise. Et après Auguste G, Jean Bouise et Gatti ont poursuivi une aventure commune en tournant à Cuba ce film mythique El Otro Cristobal. Alors en souvenir de tout ça et pour te souhaiter bon anniversaire, je voudrais lire juste quelques répliques de la fin d'Auguste G. Je serais bien incapable d'aller quelque part. La départementale 115, ce n'est plus pour moi. Ces routes-là, c'est bon quand on est enfant. Lorsqu'on devient balayeur, il n'en reste plus beaucoup. Alors on invente des histoires vieilles comme le monde. Laurence, Pauline, je m'en suis tellement raconté là-dessus que je ne sais plus très bien ce qu'elles ont été. Les femmes, c'est en dormant qu'on en a le plus. Comme ça, vaille que vaille, on remplit sa norme. Surtout, ne te fais pas de mouron, Christian. Tu seras quelqu'un, toi, pas comme moi. Lorsque plus tard tu feras des films, je sais que tu ne m'oublieras pas. Tu me feras mourir dans la Révolution, n'est-ce pas, Christian ? Avec un bel enterrement et des drapeaux rouges et tous les camarades de l'assainissement qui m'accompagneront jusqu'à la départementale 115. Dis, Christian, tu n'oublieras pas jusqu'à la départementale 115. C'est le second. Celui-là, il faut la porter dehors. Vous le jetterez discrètement dans une des rues du quartier de la Vierge. C'est un repli de truands. On croira qu'il est mort au cours d'un règlement de compte. Ainsi, en sa 46e année, est mort, lui aussi pour la Révolution, l'éboueur Auguste G.
Nous ne voulons plus que l'homme s'humilie, qu'il enterre sa date de naissance sous une autorisation de travail et troque celle de sa mort contre un permis de séjour. Une branche arrachée à l'arbre, c'est la terre qui perd ses poumons. Nous ne voulons plus que l'homme soit plus petit que l'homme, que son regard se brise sur la lumière du jour. Nous ne voulons plus que ses mains soient à vendre. Chaque jour, elles refont l'homme. Les jours de repos, elles refont même Dieu, avec des jours de paye. Construisant des villes d'acier, elles ébranlent les 7 jours du monde avec un grumeau de machère.
De 1789. La révolution de 1789, ce n'est pas la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, c'était un épisode commercial où donc quelques promoteurs ont réuni et ont démantelé d'abord la prison et ont réuni toutes ces pierres avec la date de sa prise qui marquait, et, disons, une ère nouvelle en France et l'ont revendue comme souvenir aux quatre coins du pays. Que la révolution de 1789, c'est le moment précis où les insurgés ont commencé à tirer sur toutes les horloges de Paris et les ont abattues une après l'autre. C'est ces mêmes horloges qui enfermaient la vie de chacun d'eux et qui vont continuer à l'enfermer dans la pièce « Pourquoi les animaux domestiques ?» qui raconte la journée d'une infirmière. Mais cette journée, au lieu d'être dilapidée entre l'hôpital, la maison, la nurserie où elle va chercher sa fille, le métro où elle essaie de joindre un endroit avec l'autre, c'est-à-dire les différents moments de sa journée vont être entièrement pris dans une horloge. Et c'est cette lutte contre l'horloge que va mener l'infirmière.
Viviane Théophilides lit un extrait de la journée d'une infirmière qu'elle a jouée en 1970.
Oui, il y a beaucoup de chats dans la ville d'Armand, beaucoup de chats qui se promènent, qui disparaissent, qui voyagent. Alors je voulais commencer par ce pourquoi ils viennent toujours chez moi, et ils me donnent de leurs nouvelles, des nouvelles de ceux qu'on croit disparus. Alors je voulais dire à Armand qu'ils vont tous très bien et qu'ils lui souhaitent un bon anniversaire. Arrête de ronronner tout seul, tu m'énerves. Non, c'est pas un gros poilu comme toi qui arriverait à s'énerver. Qu'est-ce que tu fous dans l'existence? Ah, si c'était pas à cause de Lola. C'est quand même curieux, les enfants, on peut leur apporter n'importe quel jouet et pour toujours après le chat. Eh, monsieur Zampano, vous dormez? Tu sais au moins pourquoi on t'appelle Zampano? Oh, arrête de ronronner, c'est pas glorieux. On t'appelle Zampano, c'est à cause des jours qui ont l'estomac barbouillé comme aujourd'hui. Et qui déclenchent dans la tête une méchante musique d'araignée. Une musique qui tissent des fils qu'on ne voit pas, mais qu'on entend. Madame Kopalevski, ma surveillante générale, elle appelle ça le bourdon. Mais ça doit faire le même bruit. Chaque fois, je me dis, voilà, Zampano qui arrive. T'as compris, non? Ça m'étonne pas, moi non plus, à m'écouter. J'ai pas compris. De toute façon, ça n'a rien à voir avec toi. Grand égoïste. Zampano, c'est un film. Avec un certain banque misérable qui allait de village en village en annonçant « Zampano est arrivé ». Est-ce que j'ai pleuré à ce film? J'ai pas la larme facile, mais un film, ça me fait sécréter. Sauf quand il passe à la télé. Mais c'est quand même curieux. Et pourquoi je te raconte tout ça? J'en sais rien. Pourquoi j'en sais rien? Ben, j'en sais rien. Peut-être parce que ça m'ennuie que Noun ait téléphoné. Ah, ça y est, Zampano arrive. Noun, tu es là? Zampano est arrivé. Tu l'entends avec sa musique. Tu ne l'entends pas? Mais c'est pas possible, voyons, écoute bien. C'est comme des fils d'araignées qui chantent. Premier chant de Zampano. Il ne faut jamais poser de questions. Les questions demandent des réponses. On a toutes les difficultés à se faire un trou. Si on vous dit que le trou ne vaut rien, alors on finit par ne plus s'y sentir. On a envie d'un autre trou. Mais ce n'est pas cela qui vous en donnera un. La vie ne commence pas dans les dessins, les fleurs, les promesses. La vie commence à 5h15, tous les jours. Ah, c'est fini, Noun. Maintenant, il faut que j'aille me coucher. Parce que si je ne dors pas, je ne tiens pas le coup. Encore un tract. J'en étais sûre. Mais ces histoires, c'est bon pour ceux qui ont des loisirs, pas pour ceux qui travaillent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Syndicat m'a jamais beaucoup tracassé. D'abord, j'y comprends rien. Puis pour moi, c'est zéro, ça compte pas du tout. Je me suis syndiquée parce que je voulais remercier un collègue qui avait été gentil avec moi et s'était occupé de me faire avoir un logement. Ben, je ne savais pas quoi faire pour le remercier. Il m'a dit, prends-moi une carte. J'ai mis de la carte. Je reçois le bulletin du syndicat tous les mois, mais je ne le lis pas. Ils m'ont envoyé une brochure avant-hier. Tout naturellement, je l'ai déchirée et puis je l'ai mis dans la boîte à chat. Oh, bien sûr, je voudrais un peu plus d'argent. Un peu plus de confort chez moi, mais ma vie ouvrière me plaît, ça me suffit. L'argent me donnerait un peu plus d'aisance. C'est vrai que je dois acheter un manteau à Lola et que je ne peux pas encore ce mois-ci. Mon mari est embêté quand on voudrait s'acheter une bricole. Il dit, achète-la, ça fait rien, mais si à la fin du mois ça tire, faut que je calcule. Sans ça. Tant qu'on a la vie et la santé, le restant... Oh, ça n'empêche pas, lorsqu'il y a une réunion à propos d'une augmentation de salaire ou de personnel, d'aller y jeter un œil, à condition qu'on parle pas de politique. Oh, je veux bien lire ton tract. S'il y a que ça pour te faire plaisir, tiens, je peux même le lire tout de suite devant toi. Ne te mêle pas de ça, Mathieu. C'est un conseil que je te donne. Oh, je ne suis pas contre ce qu'ils disent, mais je ne suis pas contre non plus. Ils ont leurs idées, moi les miennes. Que chacun fasse son lit sur l'arbre qui lui convient. Ça n'empêche pas que ceux qui sont dans les partis politiques soient des gens comme moi. Mais il y a quand même une chose qui nous fait différent. C'est que les partis, tous, ils l'ont voté la guerre d'Algérie. Moi pas. Son panneau n'arrivera plus. Même s'il reste quelques fils d'araignée quelque part, pour dire qu'il arrivera, il est mort une fois pour toutes. Son visage séparé du corps. Si j'ai appelé mon chat de ce nom, c'est pour qu'il ne revienne plus. Maintenant, c'est un nom qui a une tête que je peux localiser. Son panneau, aujourd'hui, mange sa pâtée spécialement préparée pour chat. Le vétérinaire lui a coupé ce qui pouvait lui poser des problèmes. Il ne s'aime pas les coussins. Il dort, il ronronne, il s'amuse avec les filles. Son panneau est heureux. Plus heureux que moi. Par lui, à 5h15, il entr'ouvre un œil, s'étire et se rendort. C'est la vie d'un animal domestique. En fait, pourquoi les animaux domestiques? Tu t'es déjà posé la question? On regarde l'horloge. Il est 5h15, une nuit blanche. Il est 5h15, mais c'est pas possible. Une nouvelle journée qui commence. Bah, vite, il faut que je me dépêche, sinon je vais rater le métro de 6h10. Et puis, il paraît qu'il se passe quelque chose ce soir à Théâtre Ouvert, mais moi, le théâtre, c'est pas mal. Alors, j'ai des petits, tout ça. Je voudrais juste que vous disiez à M. Gatti, pour moi, bon anniversaire, hein, de la part de Louise, l'infirmière.
De la soirée, on vient de passer une enveloppe au temps, excusez-moi, je corrige, au temps, au patriarche et l'ergumène, je te salue et je t'embrasse en regrettant de ne pouvoir souffler avec toi sur les octans, sur les octans, lanternes allumées en ton honneur. Robert a dû marcher.
Et puis, il y a eu l'aventure du Brabant Wallon de 72 à 74. Et Henri Imberg, pour l'accompagner et nous en parler ce soir, l'avait mis en scène en 62, chronique d'une planète provisoire.
Ça commence mal parce que dans mes souvenirs, c'était 65. Peut-être 64, ça fait un contrôle. Alors, ce texte, donc, pour toi, je l'ai appelé « La conversion », tu vas comprendre. 64, le moment d'une révélation, celle d'un auteur découvert avec passion, dans les éditions du Seuil, Armand Gatti. Les textes d'une force incroyable, jaillissant comme le métal en fusion de la coulée, les textes soufflant dans tous les sens du terme, les textes malaxant le politique, le poétique, le dramatique, tout ce qui pouvait exalter un étudiant de 20 ans passionné de théâtre à la recherche d'œuvres et d'auteurs inédits. Je sens encore l'épaisseur du livre dans ma main. Les trois pièces rassemblées, la vie imaginaire de l'éboueur Auguste G., la seconde d'existence du comte Plettenberg et chronique d'une planète provisoire. Ce jeune créait avec ses amis du théâtre universitaire de Bruxelles des spectacles qui se voulaient différents, de ce qui était mis sur scène dans le théâtre professionnel. Le théâtre politique, il était à peine abordé par les premières représentations timides des pièces de Bertolt Brecht. Théâtre et politique y apparaissaient toujours comme des antinomies, des incongruités. Comment alors s'étonner du sentiment d'exaltation d'un jeune passionné de théâtre qui découvre un auteur fracassant et superbe, jamais créé jusqu'à présent dans son pays, trop sage. Écrire à Gatti à l'époque pour lui demander de créer une de ses pièces, les chroniques paraissaient audacieux. Gatti était représenté sur scène en France, au TNP, dans les centres dramatiques. C'était là-bas, ici, un auteur reconnu. 1h20 aujourd'hui, pour venir de Bruxelles à Paris. À l'époque, Bruxelles paraissait dans une autre planète que la France. Une planète plus petite, plus lourde, plus lente. Et puis, vint le moment, le jeune explorateur de la troupe universitaire dut rencontrer l'auteur lui-même. C'est Armand Gatti, qu'il avait approché par ses écrits, par son texte décapant, chahutant et bourrifant, un grand, une statue. La rencontre suit à Paris, le voyage et le cheminement d'aujourd'hui ramènent le souvenir du cheminement d'alors. Et cette rencontre fut le rite initiatique du passage dans le monde d'Armand Gatti. Combien ont connu ce cérémonial qui n'en a pas l'air, où la parole et le regard incandescent vous tâtent, vous testent et vous englobent enfin dans un torrent d'idées, dans la flamme d'une œuvre que vous avez le privilège de partager. La mise en scène des chroniques, je la fis alors en pleine complicité avec Armand Gatti, mais aussi en totale liberté. Dans les chroniques, Gatti partait de l'histoire pour rebondir dans l'univers. Cette histoire qu'il avait vécue dans sa chair et dans son cœur, et qu'il avait propulsée au-delà de la réalité pour mieux la retrouver. Le jeune gars, né après la guerre, partait lui à la recherche d'une histoire à laquelle il avait échappé de justesse, qu'il devait s'approprier pour mieux la mesurer aux envolées poétiques de l'auteur. La mise en scène fut une aventure, un événement et un avènement pour tous ceux qui y participèrent. J'étais entré dans la constellation Gatti et je ne devais jamais en sortir. Comme ce soir, j'en découvris au fur et à mesure d'autres astres. Mais seul Gatti, avec Jean-Jacques Hocquart, dit l'amiral, en connaît toutes les planètes et les étoiles filantes. Le texte des chroniques résonne encore comme la parole de Sherlock, le déporté, qui essaye d'y reconstruire l'image de Pépi, son ami. Crier, je ne puis. Hurler, je ne puis. Protester, pourquoi? Il faut pour cela un corps. Le mien n'est que peine et immondice. Il faut l'enlever. Le ciel a fondu sur Francfort. Ces signes qui jalonnaient la marche du monde ne sont plus que rats, ruines, boue et pierres cramées. Je ne résiste pas au plaisir de revivre en contrepoint cet autre texte et ces autres mots que vous connaissez. Je vous construirai une ville avec des noms, moi. Je vous construirai, sans plan et sans ciment, un édifice que vous ne détruirez pas, avec une espèce d'évidence écumante, soutiendra et gonflera, et qui viendra vous braire au nez, etc. Ces mots du poète Henri Michaud, que Dante, puisque les amis de Gatti se distinguent en étant autorisés à prononcer ce nom. Que Dante évoque chaque fois qu'il me rencontre pour me dire avec tendresse qu'il y a pour lui deux Henri Michaud et moi. L'écart de talent entre les deux marque bien l'affection de son propos. Toujours cette chaleur extraordinaire qu'elle donc vous fait plus grand que vous n'êtes, de tirer le meilleur de vous transcender. Et puis, l'autre étape de nos rencontres fut l'arrivée de Gatti à l'Institut des arts de diffusion. Ils sont encore là, les jeunes étudiants. François, Jackie. C'était l'époque où Gatti avait été meurtri par l'interdiction de sa pièce « La passion du général Franco ». Ce déni ridicule allait ouvrir la voie de son errance, de sa parole qu'il a qualifiée de la même façon. Nous étions dans la foulée de 68 avec la remise en cause des anciennes pédagogies figées. J'avais été appelé par des étudiants, dont Jean-Pierre Dardenne faisait partie à l'époque, pour occuper la fonction de coordinateur de la section théâtre de l'IAD, c'est un peu long, alors que j'animais par ailleurs un centre culturel. L'idée naquit avec Armand Gatti de créer une nouvelle pédagogie dans une école libre, catholique, destinée à former des comédiens, des metteurs en scène. Pédagogie basée sur l'élan, le souffle, la tornade, marquée par Gatti. Retrouver Gatti, le mettre en contact avec ses jeunes en formation et en recherche. Réinventer la parole, donc le langage, donc la pensée. Mettre en œuvre un apprentissage basé sur le projet et l'action théâtrale. Et ce fut la colonne d'Ourouti, montée dans les usines Raskinet à Scarbeck. Selon une méthode éprouvée de nombreuses fois, les cours se donnèrent dans cette friche industrielle, gardant la trace du travail disparu. Les murs en furent cassés, comme fut cassée la séparation entre les années de cours. Je résume. J'enverrai le texte complet écrit. Mais vous, je vous épargne. C'est vrai que beaucoup restent marqués par cette expérience. Vous en bien, d'autres n'en sont toujours pas revenus, littéralement. Et puis l'année suivante, ce fut la poursuite de l'expérience avec l'école dans le Brabant-Wallon, où l'école s'était installée après avoir quitté Bruxelles. Ce fut le temps de l'Arche d'Adelin, promenant son cortège et la vidéo que Gatti avait fait découvrir à la Belgique, dans les villages, organisant fêtes et étapes d'une navigation initiatique, ramassant dans chaque port de nouveaux équipages. À ce moment-là, j'étais déjà dans le rôle de point d'appui institutionnel d'Armand Gatti. Juste retour d'une société qui lui devait, qui lui doit bien cela. De ces expériences à l'IAD sont sortis notamment les frères Dardenne, Françoise Thirion, bien d'autres encore, qui ont travaillé ensuite avec Gatti, ou l'ont porté avec eux pour tracer leur propre parcours. Et puis, il y a eu le moment où Gatti pointa vers moi son doigt et son regard pour me demander de l'aider à écrire un projet de film sur Camillo Torres. Camillo Torres était un prêtre colombien ayant fait ses études à l'université de Louvain, reparti en Colombie. Sa recherche d'idéal le fit entrer dans la guérilla et se faire tuer dans le maquis. Je partis aussitôt fougueusement à la recherche des témoignages de ses compagnons d'études. Je m'ensevelis dans les documents et les livres et j'écrivis un projet de scénario. Gatti le lut et eut la générosité d'y trouver de bonnes idées. Combien ont vécu ce moment? On se retrouvait chargé d'écriture comme d'autres sont chargés de mission. Cette manière qu'il a de vous choisir, de vous donner le sentiment d'être élu entre tous les autres, d'être adoubé, ou moi, consacré, la confirmation définitive d'une conversion. Mais c'était oublié aussi que l'alchimie finale ne peut venir que de la plume du Créateur dans lui-même. Les écritures périphériques sont des évangiles apocryphes. Je rends mal compte de la parole d'Étienne. Vous voyez, les consonnes s'entrechoquent avec les noms préhistoires. Mais ce qu'il vous aura donné, c'est cette envie d'entrer en écriture comme d'autres pourraient entrer en religion. L'écriture qui vous donne la sensation de manier le monde sans autre entrave que votre imagination. C'était il n'y a pas longtemps, à Bruxelles, en novembre, je crois. Nathy venait pour lire des extraits de la parole errante dans une ancienne chapelle réaménagée à l'occasion d'un festival consacré à la création radiophonique et sonore. Moment magique une fois de plus. Les retrouvailles le soir, comme si on s'était quitté le matin même, d'emblée à l'unisson. Et puis, à côté de moi, à table, pendant le repas convivial, un jeune gars, responsable d'un atelier de création radiophonique, parlant à Gatti, l'écoutant parler, le regard étoilé, brûlant d'idées et projets en gestation. Un jeune de plus attiré par la comète Gatti. Un jeune de plus conquis par la volonté farouche de créer, de crier. Cet échange extraordinaire par lequel Gatti fait sortir ses interlocuteurs de leur gang. Voilà mon Gatti, parmi beaucoup d'autres. Tout cela pour un homme unique et multiple à la fois. Donc, tu portes en toi bien plus de vie que tous les chats du monde. Merci de partager avec nous et pour reprendre une réplique des chroniques. Un spectacle qui finit est toujours un spectacle qui commence.
Il y a une communication téléphonique pour toi. Et comme on a fait semblant d'être à la radio, donc on va faire un insert téléphonique, on a transformé bien en studio. Et je crois que grâce à notre camarade Antoinette et Olivier, et à Carole qui vaut bien sûr la coordination, on va arriver à faire basculer vers toi, les réparteurs, quelqu'un qui paraît-il en vient de dire, qui t'appelle de Rome. Et je crois que tu vas avoir une surprise, en tous les cas, nous allons avoir tous cette surprise. Vous basculez là? On peut entendre? Oui, ça marche? Vous m'entendez? Écoutez, qu'est-ce que vous m'entendez? C'est comme un radio, ça marche pas.
Oui, ça marche.
Ah, ça marche. Eh bien voilà, c'est quelqu'un qui, un jour, tu m'as dit, il m'a appelé, j'étais à New York, et il m'a dit, Primo est sorti du corps. Eh bien, il est, lui, à Rome, tu sais qui c'est?
Oui.
Oui, c'est lui. Élie Wiesel, qui t'aimait à être chez moi, mais tu ne peux pas être là ce soir, et qui te rend, t'appelle.
Avant Élie.
C'est un peu court pour te dire ce que ta présence, elle y était de toute façon, partout où je suis, il y a Élie. Tu m'as fait découvrir un langage, tu m'as fait découvrir des paroles, tu m'as fait surtout découvrir des gens que j'avais déjà découverts avant dans le camp, dans le camp de concentration, et qui depuis sont devenus inséparables. Tu m'as fait découvrir cette chose essentielle, comme disait Baal Shem Tov, la joie dans le dire et de s'adresser à ses frères. Alors on va laisser la parole à lui, là.
Ça fait longtemps que maman s'est accompagnée à Pierre, que je sais. J'étais toujours pour la rejoindre, parce que j'ai toujours espéré, avant de te connaître, de te reconnaître, car le témoignage que nous deux, ensemble, avons essayé de transmettre, de la rapprocher par l'écriture et par la parole. Et tu sais que dans ma tradition biblique, ce qu'on dit à quelqu'un qui célèbre l'anniversaire comme le tien, on lui dit on est peu, ça pas très mal, ça veut dire sois fort et courageux. Tu as toujours été courageux, et ta force est dans ton talent, dans ta vision, dans ton humanité. Et depuis très très longtemps, grâce à notre ami commun, bien sûr, Marc, je suis tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, et toujours avec une affection profonde et une grande, grande gratitude pour ce que tu es.
Voilà, et le prophète de lui revient tous les samedis soirs. C'est les deux soi-disant belges, ça se voit, et donc, alors. Merci, au revoir.
Simplement, Henri Hilberg a merveilleusement résumé l'état d'esprit dans lequel on était quand on rencontrait Armand Gatti. Donc, les deux jeunes étudiants sont là, avec, en ce qui concerne, 18 kilos en plus, mais 18 kilos d'idées, de combat, de conviction. Et même si dans quelques temps je ne pourrai probablement plus marcher, mais même en fauteuil roulant, on peut retourner dans les maquis. On est prêts.
Nous allons vous lire un bref extrait de la partie du basket, écrite et créée en 1973, sur les différents terrains de basket qui existent dans presque tous les villages du Brabant wallon. Et donc nous avons joué ce spectacle dans la rue. J'ai toujours été reconnaissante d'avoir rencontré Gatti, qui a mis son écriture au service des paysans et des habitants de Piètrebaix, de Jadogne, de Bossu-Bourchin, de Bruxelles, de Liège. Il a mis toute son écriture au service de ces gens et c'est la vie de ces gens que nous racontions sur la place du village. Alors c'est du spectacle de rue et on va essayer de retrouver les chansons aussi parce qu'avec nous était Jackie Moreau qui a rejoint les étoiles depuis et qui composait la musique mais il n'est plus là pour nous accompagner à la guitare. Alors, la partie basket, la première didascalie, pour vous expliquer l'histoire. Deux groupes, le groupe maternel, les complexes et leurs chromosomes. Et le groupe paternel, les complexes et leurs chromosomes, débarquent les marionnettes d'Adola, de Louise et d'Ambiorix sur le terrain de basket. Ils se rejoignent et présentent leurs marionnettes. Donc, il y avait deux marionnettes. Simultanément, sont données les identités plurielles et bien entendu contradictoires de Louise Brunings. Louise Brunings étant la marionnette féminine, vous vous en doutez. Alors, Louise Brunings, ses parents sont épiciers. Elle est née au moment où le Brabant wallon refuse le roi et son trône, c'est-à-dire vers les années 50, n'est-ce pas Henri? Elle est toujours première à, à l'école communale, 35 filles et garçons, une seule institutrice. À 13 ans, c'est l'école de couture de Wavre. À 14, l'atelier de couture de Amille. À 15, le centre d'apprentissage à Louvain. Entre-temps, à la commerciale de Jodogne, elle s'est rêvée d'actylo. Mais pour continuer l'exploitation familiale, sa mère lui a trouvé un mari agriculteur. Elle est maintenant la comptable et la caissière de la ferme, femme de deux horloges, de 5h à 20h l'été, de 8 à 17h l'hiver, s'occupe spécialement de l'élevage des cochons et des moutons, ce qui lui a permis l'achat d'une quatrième. Elle attend un enfant.
Les identités d'Adelin Jamotte. Adelin Jamotte, son identité, 28 fois la superposition de froment d'été et d'hiver, de betteraves, de bêtes soignées et de cultures pour les nourrir. Plus, 4 jeunes années dans et hors l'école de Nérissem. Plus, une année adolescente à faire le service militaire. Plus, la partie de couillon le dimanche. Plus, l'appartenance à la mutuelle Caritas de Nivelles. plus un emprunt de 200 000 francs pour la réfection de la ferme, plus une date de naissance, septembre 1944. À un moment où le Brabant wallon se disait libéré, ou presque. Adelin est ouvrier agricole depuis l'âge de 14 ans. Il n'existe plus d'ouvriers agricoles parce que maintenant les ouvriers agricoles aiment avoir leur dimanche et avec le bétail ce n'est plus possible. Son seul souci, comme tous, c'est de savoir quand il devra aller travailler en ville pour avoir un peu plus de pension au moment de la retraite.
Les Madelettes d'Adelin et de Louise sont debout devant les deux structures du basket de part et d'autre du terrain.
Chromosome paternel dominant. Le complexe qui nous gouverne, ils sont trois, comme dans les mystères religieux et comme dans les junts militaires.
Chromosome paternel dominant. Le complexe qui nous gouverne. Elles sont trois, comme dans le jardin des Hespérides, comme aussi devant les portes de l'enfer.
Anciens combattants, votre et notre signe...
Les chromosomes, la triangulation.
Anciens combattants, votre et notre existence...
La mort programmée, qu'on appelle aussi la joie de vivre. Les chromosomes entonnent le cœur de la mort programmée.
Les cellules ont une vie programmée et au bout du programme, elles meurent.
L'ordinateur aussi s'arrête quand il a accompli tout ce qu'on lui a demandé.
Les cellules font et défont ce que vous êtes et rien d'autre qu'une mort programmée.
Les chromosomes récessifs occupent le terrain et entraînent les autres chromosomes à se révolter contre les complexes. Match de basket, victoire des chromosomes. Les marionnettes d'Adelin de Louise, jetées à bas des structures, deviennent des barricades. Les masses médias sont aussitôt mises en œuvre pour faire face à la situation.
Pendant ce temps, sur les barricades, les chromosomes chantent leur chant insurrectionnel.
Alors, on va tenter le chant insurrectionnel.
L'image du père est occupée, nous avons la charge du monde.
L'image de la mère est occupée, nous avons la charge de ses étoiles.
L'obscurité naît de la lumière.
Le froid naît de la chaleur.
Le plaisir naît de la douleur.
L'ordre biologique colonial vient créer du désordre primitif que nous revendiquons. Un monde différent. Un monde différent. Alors, je vous passe les détails. Mais ce qui se passe ensuite, c'est que pour reconquérir l'image de Louise, le complexe paternel, très fâché, et ses chromosomes optent pour une chanson.
Est-ce Dieu la Père? Est-ce que Adelin Jamotte a droit à la parole?
Chromosomes surajoutés, pourquoi faire?
Est-ce Dieu la Père? Rien de subversif. Une chanson à sa femme absente.
Chromosomes bouffons, c'est quoi?
Ex Dieu la Père, un accord parfait.
Chromosomes bouffons, un accord parfait, ça m'étonnerait. Les chromosomes récessifs se consultent.
Chromosomes schizophrènes, d'accord pour la chanson.
Chanson de l'accord parfait. Elle désire qu'il la désire.
Il désire qu'elle le désire. Pour le faire la désirer. Elle fait semblant qu'elle le désire.
Pour la fête, le désirer, il fait semblant qu'il la désire.
Adelin désire, le désire, que Louise a d'Adelin, que Louise a d'Adelin. Donc Adelin dit à Louise, qu'Adelin désire Louise.
Louise désire, le désire, car Adelin de Louise, car Adelin de Louise. Donc Louise dit à Adelin, que Louise désire Adelin.
Un accord parfait,
bagarre entre les chromosomes paternels et les chromosomes maternels aboutit à la copulation des deux marionnettes. Et de cette copulation va naître une petite marionnette, un enfant. Préparation de la naissance d'Ambioris. Les membres des complexes procèdent à une loterie qui va permettre aux chromosomes appelés de participer à la grossesse. La marionnette de Louise, allongée, occupe tout le terrain avec au centre Ambioris qui va naître. Soudain éclate le cœur des chromosomes qui annonce les rêves de la mère enceinte. Cœur des rêves de la mère sous forme de comédie musicale.
Son pays, une confraternité, à la fois proscrite et surprotégée. Proscrite et surprotégée. Ses compatriotes, les incapables d'assumer un travail. Ses compatriotes, les impudiques ventrus qu'on cache. Sa nationalité, femme enceinte.
Son travail.
Déversé, rejeté et projeté sur l'enfant. Ce qu'elle ne peut connaître et reconnaître en elle. Esprit qui la possède et qui pourtant n'est fait que de ses propres désirs, que de ses propres désirs.
Sa maison.
Les rêves de la mère.
Entrez.
Sera-t-il fermier, agriculteur?
Jamais, c'est trop dur, il n'y a pas d'avenir.
Sera-t-il curé, instituteur?
De toute façon, il fera des études supérieures.
Et politicien.
Non. Eh, marchand de bestiaux, un fait, ça gagne bien sa vie. Hein.
J'en vivrai dans Vallon, attention, l'arrivée des vaches hippies. Et du Mex le bicycliste.
Non, c'est beaucoup trop fatigant.
Et si c'était une fille?
Non.
Chanteur à la télévision. Ce sera un révolutionnaire.
Ils ont les cheveux trop longs.
C'est pas des vrais hommes. Vrais hommes.
Ça gagne bien leur vie.
Chromo, truand, hold-up, mitraillage. La bombe d'Abadette.
Il sera médecin, accoucheur.
Ça tombe bien, il a bougé. Les complexes veulent appeler l'enfant Marcel Jeannin. Alors, 1973, le 22 du mois d'avril, par devant nous, Léon Évrard, bourgmestre de la commune de Borsud-Borchain, arrondissement de Nivelles, province de Brabant, a comparu à Glen Jamot, lequel nous a exhibé un enfant de sexe masculin qu'il a déclaré être né le 20 avril à 5 heures. En cette commune, de lui comparaissant et de son époux, fermier, âgé de 26 ans, né à Borchain et auquel il a déclaré donner les prénoms de Marcel.
Non, l'identité, c'est un monde classé, tracé. Il faut le foutre en l'air. Ambioris, c'est une lutte. C'est une lutte contre ce monde. Vous attendez un enfant, vous avez un Gaulois. Je pense que c'est le premier refus qu'un enfant pourrait faire.
Ce n'est pas un nom. Ce n'est pas une figure historique. C'est un combat.
C'est un combat.
Sont des arbres. Et c'est à partir des arbres qu'ils pourraient être que je les invente. Dans l'homme seul, il y a encore la famille Lee sous forme de scie peupliers qui témoigne pour elle par-delà sa disparition. Dans le poisson noir, il y a dans le pays de Yen ces sages dont la seule identité au milieu des désastres de la guerre, c'est le saule qui se trouve devant la porte de leur maison. Dans V comme Vietnam, la forêt se met en marche. Dans le labyrinthe, c'est-à-dire la prison de Lonkesh, les combattants de l'IRA sont confrontés avec l'orme, l'arbre qui n'a pas de futur. Et dans Nous étions tous des noms d'arbres, le déroulement se fait sur fond d'alphabet organique, c'est-à-dire l'alphabet et qu'il y avait avant l'alphabet gaélique et dont chaque lettre était un arbre.
Nous étions tous des noms d'arbres, film auquel participera Luc Darbel en 1981. Mais avant, lui aussi a fait partie de l'aventure du Brabant Wallon. Il a retrouvé quelques notes de l'époque racontant son histoire avec Cathy.
C'est pas vraiment ça, mais je voudrais dire deux choses sur nous étions tous des noms d'arbres, je le dis aussi au nom de mon frère, qui n'a pas peut-être là. C'est la première chose, un soir, il y avait une scène dans le film où le sourd-muet, qui était interprété par un sourd-muet, qui était lui-même, il devait recevoir de la dynamite chez lui. Et quand Dante, avec un interprète, encore qui parlait, son muet, qui commençait à parler, lui explique la scène, le monsieur dont j'oublie le nom, qui était un homme formidable, lui dit non, moi ça je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Et on devait tourner la scène le lendemain matin. Et alors là, j'ai vu Gatti qui dit ben ça va, si vous ne voulez pas, c'est quand même le film est fait à partir de votre réalité, de ce qui se passe, je sais qui vous êtes, je vais essayer de trouver quelque chose avec ce que vous venez de me dire. Et il a réécrit la scène et c'était formidable parce qu'effectivement l'homme n'accepte pas la dynamite et au moment, il y a un bébé qui pleure je pense, qui permet aux deux qui venaient déposer les explosifs, de s'éloigner, et l'homme muet, sourd-muet, crie, avec un cri de sourd-muet, après les deux jeunes qui voulaient venir déposer de la dynamite. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, la manière dont tu avais réécrit cette scène en une nuit, et qui donnait une vérité beaucoup plus grande que celle qu'il y avait dans ce livre. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'est quand Carole m'a téléphoné, elle me demandait de lire des textes. Je ne suis pas comédien et ce n'est pas toujours facile de lire. Surtout que j'ai vu qu'il y a des comédiens ici qui ont joué de manière extraordinaire. Alors j'ai dit, je vais voir si je ne retrouve pas dans mes notes de travail quelque chose où je parle de Gatti. Parce que Gatti, pour mon frère et moi, c'était, je pense, un père spirituel. On a appris le théâtre, même si, comme il a dit très vite à mon frère, je crois que tu ne seras pas comédien. Mon frère a arrêté et bon, on s'est retrouvé, il nous a appris la vidéo avec Ned Burgers, le Baron Wallon, quelqu'un, Henri je crois en a parlé tout à l'heure, mais surtout en Irlande on a fait un film avec lui et on a vu comment il travaillait et bon, c'était en anglais d'ailleurs, c'était, pour moi c'était du charabia, mais enfin Dante parlait français et je pouvais quand même essayer de comprendre ce qui se passait plus ou moins quand les acteurs jouaient. Et puis bon, j'ai appris que jouer, c'est pas seulement parler. Et quand nous, on a commencé à faire nos films, mon frère et moi, souvent, Gatti, il était derrière nous. D'ailleurs, il est venu parfois voir nous critiquer, dire ce qu'ils pensaient. Et c'est difficile, évidemment. C'est difficile, mais c'est formidable. Et on le sent quand c'est formidable, c'est quand ça ne va pas. Que vous avez fait un mauvais film et que vous vous dites, bon ben, qu'est-ce qu'il aurait fait lui? Qu'est-ce qu'il dirait? Alors voilà, j'ai trouvé cette note. Je vais la lire. Et cette note est de 92. Et elle est, ce n'est pas une coquetterie, elle est du 26 du 1 92. Parce que, je te le dis, il m'arrive souvent de penser que tu es né le 26 du 1. Et il y a plusieurs notes qui sont datées du 26 du 1, donc je n'en prends qu'une ici. 26 du 1 92. Alors, lorsque vous ne savez plus où vous en êtes, que vous vous êtes égaré, vous vous souvenez de celui qui la première fois vous montra le chemin. En art, en cinéma, ce fut Gatti. Il nous sortit de notre torpeur, nous projeta dans le poème, à la recherche des signes de l'homme, de son indestructible espérance. Il nous apprit à inventer, comme il disait, à partir de nos vérités, quelle que soit la pauvreté des moyens. Il nous apprit la rigueur, la démystification de la technique. Nous nous sommes rappelés, mon frère et moi, nous nous sommes rappelés aujourd'hui cette histoire qu'il nous avait racontée concernant le tournage de L'Enclos. C'était le premier jour de tournage. Il ignorait que pour regarder le cadre à la caméra, il devait poser son œil sur l'œilleton de la caméra en appuyant assez fort, afin que s'ouvre l'obturateur de l'œilleton. Chaque fois que le chef opérateur lui proposait de regarder le cadre, il posait son œil sur l'œilleton, mais ne voyait rien. Après un temps, il relevait la tête et disait « On peut tourner. Le film est magnifique. »
Alors, là aussi, ça c'est plus long. Hein. Alors, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est une narration que je fais en 89, qui est la notion française. République française, ministère de la culture et de la communication. Le ministre, 26 janvier 2004. 2004. Cher Armand Gatti, vous traitez. Nous célébrons aujourd'hui vos 80 ans. Moment fort d'une longue carrière de journaliste, d'écrivain, de cinéaste, de dramaturge, en même temps que d'une vie militante qui ne s'est pas démentie depuis votre entrée dans la résistance à l'âge de 17 ans. Je voudrais saluer ici le cinéaste de L'Enclos. Je veux dire mon admiration pour l'homme de parole et d'espoir, clamant sa foi en l'être humain depuis l'univers concentration. Je voudrais saluer le dramaturge de la passion en violet, jaune et rouge, de la vie imaginaire de l'éboueur Auguste G., de champ public devant deux chaises électriques, que vous avez vous-même mis en scène au TNT du palais de Chicot, du poisson noir ou des treize soleils de la rue Saint-Denis. Je voudrais saluer également celui qui met en œuvre son art, sa passion, et son talent pour donner la parole à ceux qui en sont privés, de Montbéliard à Saint-Nazaire, de Strasbourg à Marseille, à Toulouse, où vous avez fait vivre l'Arc-Théryx. Il n'y a pas d'explication. Et aujourd'hui, à Montreuil, où vous avez donné naissance à la parole errante et à la maison de l'art. Je suis heureux d'avoir pu honorer ce parcours exemplaire par le grade de commandeur des arts et lettres, dont les insignes nous sont remis aujourd'hui. Recevez, cher Armand Gatti, mes salutations cordiales et admiratives, Jean-Jacques Ayagon.
Anna,
c'est pour toi. Voilà, et après, ça sera Gerland.
Avant, je fais un rap de danse. Canard, faut snore, canard, faut bruit,
canards de preux, bâtiments ivres, sur lesquels les enfants du bon Dieu pâtissent des mares de mer. Mares de mer, mares de mer, mares de mer. C'est tout cela qui s'envole, c'est dans cette courbe au bec jaune, aux ailes pointues, dont aucun calligraphie n'a jamais rejoint l'ampleur, dont aucun calligraphie n'a jamais rejoint l'ampleur. Vol de poing et du délier, supportant le double A, celui des A, des malefs, celui secret de l'anarchie, comme si tous les alphabets devraient être traversés d'un seul coup pour retrouver les mots d'une même offrande. C'est tout cela qui s'envole, c'est tout cela qui s'envole. Canard dos, canard devant, canard fausse note, canard faux bruit, journal de paix, bâtissant ivre, canard dos, canard devant, canard de terre, trinité approchable. Trinité approchable sous les espèces du quotidien, dans le même œil rond et aux trois doigts, et mais pas une seule palme, il entre dans le cœur des voyers d'en haut avec le dessin aigu d'un chant de la Sixtine et l'accompagnement lumineux des lacets qui l'évitaient, vol promis à la dérision d'en bas, d'en bas, vol promis à la dérision d'en bas, d'en bas, d'en bas, celui de suivre pas à pas sur la terre comme une ombre, le verbe canarder. Et cette tradition cannibale, cannibale. On avait aux olives, aux oranges, aux olives, aux oranges, aux oranges, la belle densité de voyelles transversées du plomb. Mais si vol soumis à une obligation venue des origines. Aïe, ça c'est le hymne, attends ça. Aïe contrevent, aïe contrevent, aïe contrevent, sinon. Aïe contrevent, sinon. Contre, 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 sinon. Contre, 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 sinon. Aïe contrevent, sinon. Aïe contre, sinon. Le vent en poupe pénètre sur les plumes, multiplie le froid par la vitesse de croisière. Le corps gèle l'oiseau, tombe, morceau de glace, de glace, morceau de glace, qui éclate au sol. Pleurez, pleurez, quatre vents de la terre, vous avez perdu celui qui vous écrivait. Pomme musicale. Pleurez, 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 quatre vents de la terre, vous avez perdu celui qui vous écrivait. Le canard sauvage ne peut que voler contre le vent. Il s'inscrit le long du ciel, le seul vivre possible. Là, c'est pas le seul, la seule vie possible de celui qui sur la terre inscrit celle du canard dans les mires d'un fusil, dans les mires d'un fusil. Il entre dans le cœur des valiers d'en haut avec le dessin aigu d'un chant de la Sixtine et l'accompagnement lumineux des lacets qui lévite. Le canard sauvage ne peut que voler contre les vents, contre, 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 sinon, contre, 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 sinon, sinon, contre, contre, sinon, Contre, sur, contre. Après, quand je suis devenue française, il m'a écrit cette chanson. Je lis dans son livre une belle chose, comme ça, je commence à chanter. C'est le canard sauvage ne peut voler que contre les vents. Je dis, écris-moi une petite chanson, comme ça. Voilà, je réussis, c'est ça. Oui, pas possible. Après, il m'a envoyé chez le compositeur. Il s'appelait Jacques Moreau. Je ne connaissais pas encore les ivres morts, les couchards, tout ça. Vrais artistes. C'était dans l'époque que j'ai même repassé les chaussettes, les culottes. Oh, c'était terrible. La cassette, donc, je te l'offre, je donnais à mon copain. Parce que c'est unique. Je n'ai jamais chanté. Mais maintenant, il était 20 ans en avance, hein. C'est vrai, moi.
Aujourd'hui, c'est son anniversaire, et comme pour tout anniversaire, il y a des cadeaux. Tous ceux que ses compagnons d'aventure ont voulu lui faire ce soir, sur cette scène, à travers ses textes et leur présence. Et de ces cadeaux, il va y en avoir beaucoup d'autres durant toute cette soirée. Mais avant un court entracte, voici maintenant un cadeau un peu spécial remis par Jacques Lang.
Jacques, est-ce que vous voulez un micro ? Vous n'avez pas perdu, depuis Caligula, vous allez toujours à la fin, hein ? Vous pouvez aller avec lui et vous le laissez parler lui. Est-ce que vous voulez un micro chacun ou vous ne voulez pas un micro ? Non ? Oui ? Bon, alors, allez-y, hein. Non, je suis un petit peu intimidé. Non, je suis un petit peu intimidé de me trouver devant vous et à côté de l'ami Armand Gatti. Après ce que j'ai entendu avec vous, ce qui a été dit, ces paroles, ces moments vécus et traversés, d'autres dans un instant, je vais préparer un texte j'ai bien envie de le dire. Après. Ce qui a été dit, chanté, exprimé, carrément m'en excuse et vous aussi, seulement dire que ma vie a un tout petit peu traversé la sienne et réciproquement, mais beaucoup plus modestement que vous toutes et vous tous. Je crois me souvenir, mon premier souvenir de lui, l'avoir vu un jour, nous étions avec quelques amis de théâtre dans une forêt du Canada, perdu, lui, là, au milieu de nous tous, à la fois sauvage et civilisé, son regard de loup plus vif que les loups qui n'étaient pas là. Bref, on l'a beaucoup bu, on l'a beaucoup rêvé, on l'a beaucoup chanté, on l'a beaucoup ri. Et puis un peu plus tard, j'ai recroisé Armand, c'était à Nancy. C'était grâce à la complicité de celui qui est cause de ma situation présente ce soir, Jean-Jacques Ocard. C'est vrai, on dit l'ami fidèle, mais le militant de chaque instant et de toujours, celui qui a en permanence été avec toi, Armand, et avec nous tous. Et il était venu avec toi, c'était La Cigogne, ça s'appelle La Cigogne. C'est une œuvre composée par des étudiants en liaison avec toi. Et puis la même année d'ailleurs, il y avait eu le spectacle qui avait été conçu au TEP, les 16 soleils. Et d'ailleurs, tu avais déjà par avance écrit ce qui allait s'écrire sur les murs de Paris, sous les pavés de la plage. C'était en mars 68, déjà dans ce texte, qui venait de toi, ou qui venait de ces comédiens, ou qui venait de ces amateurs, ou de la rue. Et tant d'autres choses, mais j'arrête là. Armand, je ne sais pas si je dois saluer en toi l'homme de parole, l'homme de la parole, l'homme du langage, l'ami, le poète, le guerriero de tous les combats. Bref, je salue celui que nous aimons, et puis que Jean-Jacques vienne, pour ne pas t'étrangler. Tu vois, que ces paroles d'amitié que ça, hein, tu le donnes aussi, hein, à mes morts. Hein, le camp de concentration, hein, le maquis, tout ce qui a été la résistance. Hein, parce que moi, ce que j'écris, ils sont là. Et tout ce que j'ai pu écrire, c'est parce que mes morts étaient là. À tous les moments. Et je me souviens, même certaines scènes qui étaient du carnage total, hein, à quel point, hein, il se métamorphosait, qu'on le veuille ou pas, hein, en chant d'espérance et en chant de haut voltage. Je me souviens, hein, lorsque les gitans ont été, c'était la dernière nuit, c'était peu de temps avant le 26 janvier d'ailleurs, la décision est venue d'éliminer le camp qui a contenu jusqu'à 1 million de gitans. Alors là, il y en avait encore quelque chose comme 400 000, parce que peu à peu, il y avait des centaines de départs, des milliers de départs. Et le jour où on a vidé définitivement le camp, alors les gitans et leurs femmes, les enfants, sont partis en suivant. Ça, c'est une première, c'était le départ d'une réponse. Hein. Ils n'ont pas voulu abandonner les instruments de musique. Ils n'ont pas voulu. Ah, comme ça, alors finalement, on dit, allez, viens, tu sais, il y a musique. Le SS qui s'occupait, qui était d'ailleurs le médecin, qui sait, il y a musique. Alors, ils sont partis, il y avait ceux qui jouaient l'instrument, ils sont partis jusqu'à la chambre à gaz. Et là, dans la chambre à gaz, il s'est passé cette chose formidable, hein, c'est que, évidemment, il avait fallu quitter les habits avant d'entrer dans la chambre à gaz. C'est une chose formidable, hein. Les femmes se sont ouvertes, les hommes se sont agenouillés devant, et puis, hein, la chambre à gaz est devenue, hein, un immense chant d'amour qui était fait des soupirs. Voilà. Pouvoir faire ça devant la mort, parce que, je n'ai que le réflexe d'homme,
dans cette histoire. Comment un homme qu'on va mettre à mort peut-il bander? Enfin, c'est pas possible. Enfin. Et pourtant, ça s'est fait comme ça. Ils sont tous morts comme ça, en faisant l'amour. Voilà ce que c'est que les camps. Bon, hein, c'est une réalité qu'on rejette. Mais, je dirais même heureusement, hein, j'y ai été. Parce que ça me donne une existence remplie à tous les niveaux. Ça me donne des camarades à l'infini. Ça me donne des gens avec qui je discute tous les jours. Hein, et ça me donne des gens hein, qui me donnent envie de créer. Voilà. Je voudrais hein, que tu leur accordes hein, à tous ça. Merci.